Cambridge Assessment International Examinations. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, May-June 2019. Part 2. Listening. Texte à écouter 1. Interview avec Jean-Louis Forestier, homme politique. Expliquez un peu votre projet.
Mon projet, c'est simple. Apporter l'électricité aux 750 millions d'Africains qui n'en ont pas. Pendant 2 ans, j'ai rencontré les chefs d'État d'une cinquantaine de pays du continent. Chacun m'a réservé un bel accueil. Certains ont été pour moi de sérieux soutiens pour défendre la cause.
Pas d'accusation de néocolonialisme ?
Pas du tout, car nous ne sommes pas ici dans le vieux schéma de l'aide au développement d'autrefois. Moi, j'ai lancé l'idée et assuré la coordination du projet. Ce sont maintenant aux Africains de conduire les opérations.
Quelle agence va diriger ces opérations ?
C'est l'Agence pour les énergies renouvelables en Afrique qui sera l'instrument de ce vaste programme. L'agence vise à permettre l'installation d'une capacité énergétique renouvelable à grande échelle, ce qui aurait un impact considérable sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du continent.
Quand commenceront les chantiers ?
Les premiers bulldozers sont déjà en action. Mais les premiers effets tangibles de ce vaste programme vont commencer à se voir d'ici à 6 ans. L'Afrique dispose d'un potentiel hors du commun pour s'électrifier. Géothermie, solaire, hydraulique. Il suffit d'y mettre les moyens pour l'exploiter.
Si l'Afrique s'allume, c'est aussi la face du monde qui va changer.
Il n'y a pas de croissance durable sans énergie, ni d'accès à l'eau, à la santé, à l'emploi, à l'éducation, au transport, à l'information, à la sécurité. C'est donc toute la vie du continent, surtout dans ses parties les plus reculées, qui va être bouleversée. Aujourd'hui, la jeunesse cherche à émigrer. Demain, ils resteront. Car l'Afrique, ce sera le relais de croissance du monde entier.
Cette expérience vous a-t-elle changé ?
Travailler avec les Africains m'a appris l'importance de l'oralité et le sens du temps, bien différent chez eux, et m'a réconcilié avec le mot « fraternité », qui n'est pas un vain mot sur le continent africain.
Texte à écouter 2. La crise à l'église. Pour les prêtres, le quotidien se fait plus dur. Le nombre de prêtres a presque été divisé par 2 en 20 ans. La France compte 15 000 prêtres. Plus de la moitié a plus de 75 ans. Et alors qu'on estime qu'environ 800 meurent chaque année, il n'y a qu'une centaine de nouveaux qui arrivent pour les remplacer. Il n'est donc pas rare qu'un ecclésiastique soit responsable de plusieurs paroisses. Pour faire face à cette crise, on n'a d'autre choix que de faire appel à des prêtres étrangers. Ils viennent souvent des pays de l'Est ou du continent africain. Ces derniers, qui représentent 20% des effectifs, constituent justement une population à risque, en raison de la surcharge de travail et du déracinement qu'ils peuvent vivre. Jean-François Masson, curé.
La figure du prêtre, telle qu'on la connaît, n'a plus rien à voir avec celle de nos aînés. Le curé est devenu manager, gestionnaire de ressources humaines, animateur de communauté, arbitre, conseiller conjugal. C'est un job hallucinant de complexité. Il est plus simple d'être dirigeant d'entreprise que curé d'une paroisse. Pas étonnant que pas mal de prêtres soient en état de burn-out. Dans les paroisses, on est confronté à un consumérisme croissant de la part du public, en particulier pour les baptêmes et les mariages. J'ai déjà reçu des demandes de remboursement pour cause d'insatisfaction. Nous constatons qu'il existe parfois un véritable fossé entre ce que nous sommes censés enseigner, notamment en termes de morale, et l'expérience vécue par la population pour qui nos paroles peuvent sembler incompréhensibles et irréalistes. Nos fidèles ont d'ailleurs parfois l'air perplexes. On a l'impression désagréable d'offrir un produit qui ne correspond plus à la demande.
Texte à écouter 3. Patrick Rogier, chocolatier. Patrick Rogier est chocolatier. Comment arrivez-vous à maintenir la qualité de vos chocolats?
Avoir le souci du détail pour obtenir un chocolat irréprochable. J'évite les produits standardisés. Il peut m'arriver de renvoyer une livraison d'oranges de Corse ou des citrons du Brésil. Ou même de jeter des chocolats que je trouve imparfaits. Il faut rester au top niveau et ne pas décevoir le client.
Est-ce viable, économiquement, de faire du chocolat haut de gamme?
Avec les 9 boutiques, qui sont notre seule source de revenus, nous sommes à l'équilibre. Et puis, j'adore ma clientèle à Paris. Ils ont une culture du goût dingue. Ils sont prêts à payer le prix d'un cochon pour un bon beefsteak. Dans mon atelier, je dispose aussi d'une galerie de sculptures dont certaines se vendent plusieurs milliers d'euros.
Comment faites-vous pour trouver des chocolatiers?
La vraie contrainte, c'est la main-d'œuvre, puisque quasiment tout est fait à la main dans l'atelier. Pas évident de trouver un personnel compétent, motivé et capable de me suivre dans mes créations. En 2 coups d'œil, je sais si un type fera l'affaire ou pas. Je me suis rarement trompé.
Et vous sculptez du chocolat?
Oui. Le musée Rodin m'a demandé d'imaginer une sculpture monumentale. Je me suis inspiré de la statue de Balzac de Rodin. J'ai mis 450 heures de travail pour ma version, qui a une hauteur de 3,87 m. Techniquement, c'était très compliqué à réaliser, car il n'y a aucune structure, uniquement du chocolat, environ 1200 kilos.
This is the end of the recorded material.